Je les ai lues, écoutées, aimées. Elles nous ont construites, bouleversées, changées. Elles sont toutes des femmes d'exception et c'est leur vie que je vais vous raconter.
Ma mère, elle avait pas beaucoup de temps. Elle était veuve et trois gosses. Ben, on se lavait tout seul, quoi. 7 ans, moi, je me prenais ma douche. Elle me savonnait le dos. Puis j'étais débrouillarde. J'étais rapide. Je gagnais du temps tout le temps, à tout. Dans la vie. Seulement, j'ai eu ce paradis de cette mère qui était tout à la fois, quoi. Le malheur, l'amour, l'injustice, l'horreur.
Une mère dont elle quémande l'amour. Une mère distante qui n'a Dieu que pour son fils aîné. Une petite fille élevée en Indochine sans père. Il est mort quand elle avait 5 ans. Une petite fille entre deux frères, sauvage et en même temps si douce et si désireuse de se faire reconnaître par sa mère institutrice qui lui apprend à lire et à écrire. Tels seront les thèmes obsessionnels qui viendront rythmer la vie et l'écriture de celle qui s'appelait Marguerite Donadieu et n'a pris le nom de Duras qu'à l'occasion de la publication de son premier roman. Elle, la mère, l'invisible de l'histoire coloniale, elle, la désargentée, elle, la valeureuse, éduquant ses 3 enfants dans des conditions géographiques et économiques difficiles, qui avait cru les blancs de l'administration quand ils lui ont vendu un bout de terrain au bord du Pacifique pour y cultiver du riz en lui disant qu'elle deviendrait riche. Marguerite Duras, la littérature du désir. Marguerite disait que petite, elle avait les yeux bridés et la peau jaune, et que les enfants du village où elle vivait, et avec qui elle allait se baigner, la prenaient pour l'une des leurs. Elle disait aussi qu'elle parlait leur langue, et que cette langue était belle, musicale, et que son écriture, en apparence si simple, venait des fantômes de son enfance. Le français était sa matière préférée, et elle y excellait. C'est pour cette raison que la mère décida de l'envoyer là-bas, dans le lycée de la capitale, à Saïgon. La suite, on la connaît, par ses livres « L'amant » et « L'amant de la Chine du Nord », et par les films qui en ont été tirés.
Il ne faut pas oublier que le livre était fait pour un album de photos. Voilà, les lieux que je vois, s'ils sont restés les mêmes, c'est les fleuves d'abord. Avec ce qu'on appelle aussi en Cochinchine les racs. C'est-à-dire, ça ressemble au délaissé un petit peu. C'est des bras qui n'aboutissent pas, des bras de mer. Et là, il y a beaucoup de villages.
Je me souviens d'être allée en Chine il y a quelques années, invitée pour parler de Marguerite Duras, très connue et traduite là-bas depuis longtemps. Quelle ne fut pas ma surprise de voir des lycéennes et des étudiantes faire des selfies avec le livre de l'amant contre leur poitrine en m'expliquant que la lecture de ce livre fut, pour elles, la révélation de l'amour et un manuel de libération sexuelle. À chacun, à chacune, son amant. Certes, celui de Marguerite est riche, et avoir ses faveurs peut provoquer la jalousie des autres filles quand il vient la chercher dans sa voiture de luxe devant le lycée. Mais ces signes ostentatoires de richesse n'effacent pas la peur et l'effroi que cette toute jeune fille ressent devant ses avances répétées. S'il est un hymne à la sensualité du monde, les odeurs, les sons, la douceur de l'air. L'amant n'est pas la description de l'éclosion du désir féminin, mais plutôt la décision d'une jeune fille de se vendre à un jeune homme riche pour faire vivre, grâce à ce contrat tacite, sa mère et ses 2 frères. Marguerite Duras, que sa mère considère et appelle la petite, s'émancipe grâce à cette histoire. Sa mère ne s'oppose pas à son départ de la colonie pour aller faire des études à Paris. Elle arrive dans la capitale, ne connaissant personne, avec dans sa valise un kilo de riz que sa mère lui avait donné et qu'elle continuera à lui envoyer par bateau pendant plusieurs années. D'ailleurs, le lien de Marguerite avec la cuisine vietnamienne perdurera. Elle était devenue une excellente cuisinière qui adorait qu'on la complimente. Marguerite a le désir d'être écrivain et d'être publiée. Elle fait des études de droit tout en griffonnant des pages. À la fac, elle rencontre une bande de garçons qui vont devenir des copains. Philosophes, très cultivés, ils vont lui faire connaître le Paris des intellectuels. Parmi eux, l'un va se détacher et devenir son amoureux. Il s'appelle Robert Anthelme. Avec lui, elle entrera dans un monde de jeunes pétris du désir de refaire le monde. Avec Robert, Marguerite aura un enfant qui mourra à la naissance. Marguerite écrira un texte bouleversant sur cette mort dans une clinique religieuse, mort qu'elle attribuera aux pénuries de la guerre. En 1942, Marguerite entre comme salariée au comité d'organisation du livre, dans un département chargé de répartir les quantités de papier qu'autorisent les Allemands aux maisons d'édition. Travaille-t-elle pour l'occupant ? Ce travail fait-il d'elle une collabo ? On le lui a beaucoup reproché à la fin de sa vie quand elle obtint le prix Goncourt. Ce qui est sûr, c'est que quelques mois plus tard, début 1943, elle donne sa démission et entre dans la résistance avec Robert Anthelme dans le réseau de François Morland, François Mitterrand. Elle prend des risques, transporte du courrier, héberge des résistants, fait le lien entre eux. Robert est arrêté en juin 1944. Marguerite fait le siège de la Gestapo pour savoir où il est emprisonné et demande à le voir. Elle entretient des relations ambiguës avec un collabo qui lui fait croire qu'il sait où est emprisonné son mari. Chaque jour, elle note sur un cahier comment elle vit cette atroce attente et comment elle le séduit pour lui soutirer des informations. Robert Anthelme est transféré à Compiègne, puis déporté au camp de Buchenwald. Il écrira après la guerre un texte bouleversant intitulé « L'espèce humaine ». Il est sauvé in extremis de la mort par François Mitterrand, alors nommé chargé de mission par le général de Gaulle, et le conduit à Paris, où Marguerite, pendant des semaines et des semaines, le soignera. 50 ans plus tard, dans sa maison de campagne de Naufle-le-Château, Marguerite retrouvera dans une armoire ses cahiers qu'elle publiera sous le titre de « La douleur ».
Face à la cheminée, le téléphone. Il est à côté de moi. À droite, la porte du salon et le couloir. Au fond du couloir, la porte d'entrée. Il pourrait revenir directement. Il sonnerait à la porte d'entrée. Qui est là ? C'est moi. Il pourrait également téléphoner dès son arrivée dans un centre de transit. Je suis revenue. Je suis à l'hôtel du TCA pour les formalités. Il n'y aurait pas de signe avant-coureur. Il téléphonerait. Il arriverait. Ce sont des choses qui sont possibles. Il en revient tout de même. Il n'est pas un cas particulier. Il n'y a pas de raison particulière pour qu'il ne revienne pas. Il n'y a pas de raison pour qu'il revienne. Il est possible qu'il revienne. Il sonnerait. Qui est là ? C'est moi.
«
À la Libération, Marguerite Duras fait partie d'un groupe d'intellectuels déçus par le général de Gaulle, plus préoccupés, selon eux, de recoudre et de réparer la France que d'appliquer des réformes issues des valeurs de la Résistance, prônant plus d'égalité entre les classes sociales. Elle vit rue Saint-Benoît avec son nouvel amoureux, Dionis Mascolo, qui est le meilleur ami de Robert Antelme, tout en cohabitant avec Robert, avec qui elle entretient des rapports profonds d'amitié. Le soir, elle organise des fêtes où viennent des amis philosophes, comme Maurice Merleau-Ponty ou Edgar Morin. On boit, on danse, on chante. Marguerite adore chanter et ne se fait pas prier pour déclamer son répertoire. Le jour, elle essaie d'écrire. C'est grâce à Raymond Queneau, alors directeur de collection chez Gallimard, ami et collègue de Dionis, qu'elle publie en 1943 son premier roman « Les Impudents ». Cette publication ne sera ni remarquée ni commentée par le monde littéraire, et le second aussi, « La vie tranquille ». Cela ne la décourage pas, elle pense et répète à ses proches qu'écrire pour elle, c'est la seule chose qu'elle sache faire. Sa vie, outre l'amitié qui tient une grande place, est remplie par le militantisme. Elle devient une militante exemplaire. Elle vend l'UMA tous les dimanches matins dans les marchés et va à toutes les réunions. Marguerite est communiste parce que c'est le parti des pauvres et des ouvriers, mais communiste d'un genre particulier, exalté, utopiste et critique. À l'époque, le stalinisme sévit et au Parti communiste français, les responsables ne tolèrent pas la moindre critique sur le régime soviétique. En 1950, Marguerite et ses camarades sont exclus sur dénonciation par des camarades d'une autre cellule. Ils leur reprochent d'avoir trop milité pour un communisme critique et libre. Elle en conservera beaucoup de colère contre le parti et beaucoup de tristesse.
La chose que je supporte pas, si tu veux, c'est définitivement la fin du communisme. Voilà. Tout peut arriver. Tout. Mais enlever au peuple cette chance-là, c'est pas supportable. Parce que c'est vraiment sa chance. Le peuple du monde n'a plus aucune chance.
Le projet de l'écriture du barrage contre le Pacifique vient d'une décision. Marguerite parlera désormais à partir d'elle. Le texte, qui met en scène comme personnage principal une jeune fille du prénom de Suzanne qui ressemble furieusement à la jeune Marguerite, évoque l'histoire familiale des Donadieu, dirigée par la veuve entourée de ses trois enfants dans une Indochine gangrénée par le colonialisme.
C'était une grande ville, 200 000 habitants, qui s'étendait de part et d'autre d'un large et beau fleuve. Comme dans toutes les villes coloniales, il y avait deux villes dans cette ville, la Blanche et l'autre. Et dans la ville Blanche, il y avait encore des différences. La périphérie du haut quartier, construite de villas, de maisons d'habitation, était la plus large, la plus aérée, mais gardait quelque chose de profane. Les quartiers blancs de toutes les villes coloniales du monde étaient toujours, dans ces années-là, d'une impeccable propreté. Il n'y avait pas que les villes. Les blancs aussi étaient très propres. Dès qu'ils arrivaient, ils apprenaient à se baigner tous les jours, comme ont fait des petits-enfants, et à s'habiller de l'uniforme colonial, du costume blanc, couleur d'immunité et d'innocence. Dès lors, le premier pas était fait. La distance augmentait d'autant. La différence première était multipliée, blanc sur blanc, entre eux et les autres, qui se nettoyaient avec la pluie du ciel et les eaux limoneuses des fleuves et des rivières. Le blanc est en effet extrêmement salissant.
Ces C'est une œuvre magistrale, tant par son architecture, son écriture, que par le contenu de ce qui nous est révélé. La souffrance des petits blancs exploités par les colonisateurs. Ce texte est aussi la matrice de plusieurs livres à venir de Duras. La presse, puis le public ne s'y trompe pas. Il plébiscite l'ouvrage qui, publié en 1950, frôle le Goncourt et sera adapté au cinéma par René Clément en 1958 et Ritipane en 2008.
Monsieur le résident supérieur, pendant 20 ans, j'ai sacrifié jusqu'au moindre plaisir de ma vie, de ma jeunesse, pour acheter cette concession au gouvernement. Cet argent, je voulais porter un matin dans une enveloppe. Je voulais porter pieusement. C'était tout ce que j'avais. Je vous ai donné tout ce que j'avais ce matin-là, tout. Comme si je vous apportais mon propre corps en sacrifice. Comme si, de mon corps sacrifié, il allait fleurir tout un avenir de bonheur pour mes enfants.
J'avais le sentiment que le compte était réglé avec ma jeunesse. C'est-à-dire que si je n'avais pas écrit le barrage, étant donné ce que ma mère avait souffert à cause de cette histoire, j'aurais jamais été tranquille, enfin j'aurais jamais pu continuer à écrire. C'est une sorte de règlement de compte.
Marguerite est lancée dans le monde littéraire. Elle fait partie de jurys. On lui commande des articles dans la presse, notamment à France Observateur, où elle va signer toute une série d'articles qui feront date sur la guerre d'Algérie, qu'on nommait à l'époque les événements. Elle-même, avec Dionis, Robert et toute la bande d'amis de la rue Saint-Benoît, s'engage pour le Front de Libération Nationale, entrepose des armes chez elle, devient porteuse de valises, signe le manifeste des 121 et manifeste contre l'organisation armée secrète et soutient désormais les luttes anticoloniales.
Dire non à la guerre, enfin, on a fait des choses énormes quand même. Et moi, je me souviens, un jour, on m'a dit « Vous avez un casier judiciaire maintenant. » Ça fait un certain effet. Puis après, ça passe immédiatement, quoi. Ça s'appelle enfreindre les lois. Enfreindre. Le bonheur de la désobéissance. C'était un vrai bonheur, quoi. C'est ça, le bonheur fou.
Marguerite va alors délaisser la grande fresque historico-politique qu'était le barrage pour des récits courts. Le marin de Gibraltar, les petits chevaux de Tarquinia, Moderato Cantabile, des textes assez envoûtants par la forme et l'apparente simplicité. Des textes qui tournent autour de l'impossible amour. Elle commence à avoir son public, un petit public de fans, qui se récite à haute voix certains fragments de ses livres.
Tu n'as rien vu à Hiroshima, rien.
Alain René lui commande l'écriture d'Hiroshima, mon amour, l'histoire d'une femme tondue à la fin de la guerre, qui tombe amoureuse d'un soldat japonais.
J'ai tout vu, tout.
La force de l'histoire, la qualité et la puissance des dialogues contribueront à faire de ce film, sorti en 1959, un des chefs-d'œuvre du cinéma français du XXe siècle. Marguerite Duras aime se confronter à toutes sortes d'écritures, cinématographiques, théâtrales, et aime aussi traduire Henry James, Strindberg et Tchekhov. Son modèle, ses racines, ses œuvres complètes sont sur sa table de nuit. Elle est en recherche permanente et travaille tout le temps, à la fois sur la matière même des mots et sur le cachet à l'intérieur de nous, ce qu'elle nomme le bloc noir. Écrire, c'est avoir le courage de plonger à l'intérieur de soi pour atteindre ce bloc noir. Opération physique et psychique tout à la fois, dangereuse donc par définition. Progressivement, elle va se débarrasser de certains tics d'écriture pour créer une langue à elle, une langue simple, avec peu de mots, des phrases courtes. Une langue qui vous va droit au cœur, une langue qui vous habite.
Écrire, c'est ne rien dire. Écrire, c'est écrire. Un écrivain, c'est muet. C'est impossible de parler d'un livre à quelqu'un. Un livre en train de venir. C'est à l'opposé du cinéma, à l'opposé du théâtre, à l'opposé de toute lecture. C'est vraiment une nuit. C'est la nuit, c'est ça. Un livre, c'est la nuit. Oui. Ça me fait pleurer, je ne sais pas pourquoi.
Avec le ravissement de l'Olvestein, Marguerite Duras accomplit encore une métamorphose. Est-ce à la suite d'un reportage dans un hôpital psychiatrique ou d'un rêve qu'elle fit, ou les deux entremêlés? Avec ce livre, entêtant par sa forme et son contenu, qui raconte comment une fiancée va, au cours d'un bal, se faire quitter par son amoureux et au lieu d'en pleurer, aller s'allonger dans un champ de blé pour les regarder danser, Marguerite devient prophétesse, conteuse de l'inconscient, fabulatrice de contrées dangereuses. L'Olvestein sera la matrice d'autres histoires, nombreuses, entre mythologiques, symboliques et universelles. Marguerite invente des personnages de femmes, comme cette mendiante de Calcutta, ou la femme du Gange, ou Anne-Marie Streeter. Marguerite vit avec passion mai 68, vient à la Sorbonne occupée, va dans les manifestations, se réjouit de ce qu'elle considère et vit comme une révolution et s'associe dès les débuts du MLF à la lutte féministe. Marguerite dira toujours que l'écriture est un harcèlement psychique violent qui nécessite une grande solitude, difficile à traverser. Est-ce pour cette raison qu'elle décide de faire de plus en plus de cinéma, sans l'avoir jamais appris, sans argent, mais avec la farouche détermination de faire comme et ce qu'elle veut, elle se lance dans ce nouveau métier en le réinventant. Pas de scénario, pas de décor. Elle tourne dans sa maison de campagne à Naufle-le-Château, achetée avec les droits d'auteur du barrage, avec une toute petite équipe qu'elle loge et nourrit. Elle invente des images qui viennent non pas illustrer ses écrits, mais créer d'autres univers, et petit à petit en fait un principe. Après le texte, le film. Elle enchaîne les tournages et trouve un bonheur particulier, celui de partager avec une équipe un projet artistique, sortir de l'isolement, voir prendre vie grâce à des actrices, Jeanne Moreau et Delphine Seyrig en particulier, des personnages sortis de son imagination. Ces films restent confidentiels, mais bénéficient d'un succès critique et d'un public fidèle. Elle est invitée dans les festivals et se construit progressivement une légitimité dans ce nouveau métier où elle invente un rythme, un tempo, une sensualité.
On dit que vous êtes vénitienne.
Mon père était français. Ma mère était de Venise, oui. J'avais gardé son nom.
Je vous ai cru anglaise la première fois.
Ça arrive quelquefois.
Est-ce qu'il y en a qui ne s'habituent jamais?
Chanson, toi qui ne veux rien dire.
India Song, son film le plus connu et reconnu aujourd'hui, où la musique de Carlo Di Alessio, la poésie incantatoire du texte de Duras, l'interprétation magnétique de Delphine Seyrig, crée chez les spectateurs une forme d'envoûtement.
Oh, toi. Ensemble.
Pendant plus de 10 ans, Marguerite écrit, puis filme, puis écrit de nouveau. Elle tourne aussi dans un lieu qu'elle a choisi pour passer l'été, un appartement à Trouville, aux Roches Noires, au bord de mer. C'est là qu'elle écrit, à la demande de Serge Julie, alors patron de Libération, l'été 80, une méditation poétique et philosophique sur l'enfance, l'illimité, le vide, le rien. Marguerite n'attend plus rien de la vie, mais est heureuse de continuer à vivre. Elle a été hospitalisée à 2 reprises. Elle dit à son médecin qu'elle est angoissée, mais ne lui dit pas qu'elle boit. Elle sait qu'elle n'est plus désirable. Vieille dame qui calme ses états d'âme en buvant de plus en plus, recluse dans ses angoisses, mais adorée par des lectrices et des lecteurs qui lui envoient un courrier considérable. Parmi ses lettres, un jeune homme, étudiant à Caen, a réussi à capter son attention par la beauté de son écriture. Il veut la voir. Elle lui demande pourquoi. Il lui répond « pour vous connaître ». Il prend le car un beau matin, sonne à sa porte. Elle met un peu de temps à lui ouvrir. Savait-elle que sa vie allait changer ? Marguerite a toujours été un peu sorcière. D'ailleurs, elle les admirait. Elle finit par lui ouvrir. Il parle. À la nuit tombée, elle lui offre du vin. Elle lui apprend à regarder la mer la nuit et lui propose de dormir dans la chambre de son fils. Yann Andrea, c'est ainsi qu'elle le nommera, le faisant entrer dans son univers à elle et le dépouillant de son identité antérieure. Ne repartira pas et sera à ses côtés jusqu'à son dernier souffle. Amant, secrétaire, confident, compagnon, admirateur, adorateur, homosexuel, Yann deviendra le prince adoré et abhorré du nouveau royaume imaginaire qu'elle se crée grâce à lui. Yann est sa muse, sa nouvelle source d'inspiration et de fantasme. Yann est d'une grâce et d'une intelligence infinie. Yann est un sujet pensant et vivant. Yann n'est pas un jouet. Yann va l'aimer, mais ce n'est pas Marguerite, alors qu'elle le souhaite tant, qui va lui ôter le désir des garçons. Marguerite croit qu'elle peut tout, pas cela. Elle peut écrire sur cela. Cela s'appellera « L'homme atlantique », témoignage de cet impossible amour. « Je t'aime, alors tu dois m'aimer comme je veux que tu m'aimes. » Marguerite veut tout. Yann part, revient, Yann s'enfuit, elle le cherche des nuits entières, il revient. Marguerite ne peut plus se passer de Yann. Elle l'emmène partout, dans les festivals du monde entier, dans ses rendez-vous à l'Élysée où elle retrouve son copain de résistance François Mitterrand, qui va accepter, pour l'autre journal, de faire des entretiens avec elle.
Alors c'est à ce moment-là que je suis rentré tout de suite, alors que je devais rester un peu plus longtemps. Je suis rentré tout de suite à Paris.
C'est pas, j'avais oublié que vous étiez revenu à Paris.
Ah si, j'étais avec vous, dans l'escalier.
Vous étiez là, j'ai oublié tout.
Et vous étiez tellement interdite que vous n'avez pas bougé, vous étiez absolument pétrifiée.
Marguerite boit de plus en plus. Marguerite va de plus en plus mal. Elle le sait, mais ce n'est pas pour cela qu'elle veut arrêter. Marguerite ne peut plus tenir debout. À bout de force, elle accepte une cure de désintoxication. Elle en sortira comme ressuscitée, joyeuse, rieuse, de nouveau créative. Elle écrit pour Madeleine Renaud, qui le lui demande, la pièce « Savannah Bay » qui sera un immense succès.
Oui, la pièce ne sera jamais jouée. Ne sera jamais écrite ni jouée ou quoi ?
Ne sera jamais écrite, alors autant mourir.
Non, je ne te comprends pas.
La pièce ne sera jamais écrite, ni alors autant mourir.
Mais tu crois qu'on peut dire autant mourir parce qu'une pièce n'est pas jouée, oui ?
On peut dire pour moins que ça. Hein. Pour moins que ça. Une nouvelle dans le journal, ça ne te donne pas envie de mourir quelquefois ?
Ah non.
Moi, tout le temps.
Ah oui, la nouvelle d'un décès d'une...
Non, un événement.
Ah oui.
Un événement international.
Ah oui, mais pas moi. Ça ne donne pas envie de mourir.
Mais c'est pas vrai, ça t'est arrivé. Ça t'est arrivé.
Non, ça fait rien.
Tu ne sais plus qui tu es. Qui tu as été. Tu sais que tu as joué. Tu ne sais plus ce que tu as joué. Ce que tu joues. Tu joues. Tu sais que tu dois jouer. Tu ne sais plus quoi. Tu joues. Sauf que la salle a payé et qu'on lui doit le spectacle. Tu es la comédienne de théâtre. La splendeur de l'âge du monde. Son accomplissement. L'immensité de sa dernière délivrance. Tu as tout oublié. Sauf Savannah. Savannah Bay. Savannah Bay, c'est toi.
Son fils, Jean Mascolo, vient de retrouver un vieil album de photographies quand sa mère était en Indochine. Il lui propose d'en écrire les légendes pour un éditeur spécialisé dans la photo. Elle accepte, commence à écrire. Les souvenirs ressurgissent, les odeurs, les sons, les lumières de son enfance. Et elle continue à écrire sans même le vouloir. C'est Yann qui lui dit « Mais c'est un livre que tu écris et pas des légendes pour des photos. Je vais porter ton manuscrit de l'autre côté de la rue aux éditions de Minuit. » Ainsi fut fait le lendemain. Quelques mois plus tard, Jérôme Lindon propose une publication. Le titre, L'amant.
L'écriture courante que je cherchais depuis si longtemps, je l'ai atteinte, là. Maintenant, j'en suis sûre. Et je parle de la crête des mots, pour aller vite, pour ne pas perdre. Parce que, quand on écrit, c'est le drame. On oublie tout, tout de suite. Et c'est affreux, quelquefois.
Désormais, elle veut respirer les mots. C'est ce qu'elle appelle l'écriture courante. Ce presque rien, ce flux qui sort de vous, ces mots légers qui s'évaporent et qu'il faut se dépêcher de fixer, car, comme le galop de la mer, ça court l'écriture. Marguerite dit « Je suis plus écrivain que quelqu'un en vie ». Marguerite dit « Je déteste qu'on dise de moi que j'écris des livres ou je raconte des histoires ». Et pourtant, L'amant, le livre qui la fera connaître dans le monde entier, sera lu comme l'histoire de sa vie. Quand elle reçoit le prix Goncourt, elle n'y prête au départ guère attention. D'ailleurs, elle est à Trouville et refuse de venir à Paris pour la cérémonie. Elle a mieux à faire, elle attend son plombier qui vient réparer une fuite d'eau. C'est à ce moment-là que le grand public découvre Duras et s'empare avec délices et gratitude de ce livre sublime, traité d'amour et de perdition.
Un jour, j'étais âgée déjà, dans le hall d'un lieu public, un homme est venu vers moi. Il s'est fait connaître et il m'a dit « Je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune. Je suis venue pour vous dire que pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant, dévasté. Je pense souvent à cette image que je suis seule à voir encore et dont je n'ai jamais parlé. Elle est toujours là, dans le même silence, émerveillante. C'est entre toutes celles qui me plaît de moi-même, celles où je me reconnais, où je m'enchante. Très vite, dans ma vie, il a été trop tard. À 18 ans, il était déjà trop tard. Entre 18 ans et 25 ans, mon visage est parti dans une direction imprévue. À 18 ans, j'ai vieilli. Je ne sais pas si c'est tout le monde, je n'ai jamais demandé. Il me semble qu'on m'a parlé de cette poussée du temps qui vous frappe quelquefois, alors qu'on traverse les âges les plus jeunes, les plus célébrés de la vie. Ce vieillissement a été brutal. Je l'ai vu gagner mes traits un à un, changer le rapport qu'il y avait entre eux, faire les yeux plus grands, le regard plus triste, la bouche plus définitive, marquer le front de cassures profondes. Au contraire d'en être effrayée, j'ai vu s'opérer ce vieillissement de mon visage
avec l'intérêt que j'aurais pris, par exemple, au déroulement d'une lecture.
La plupart des critiques disent que ce n'est pas le meilleur dans son œuvre. Moi, je pense que c'est un des plus aboutis par la forme et par le magnétisme que crée son écriture. Elle aura beau expliquer qu'il s'agit d'une fiction, le public prendra l'amant comme une forme d'aveu autobiographique et, progressivement, elle acceptera de dire que l'histoire de cette jeune fille de 14 ans qui, un jour, sur un bac en Indochine, accepte les avances d'un jeune Chinois riche, soit aussi la sienne. Même si la sédimentation du temps et le travail de la mémoire et de l'écriture ne font pas de l'amant un livre confession. Marguerite Duras, qui sort d'une nouvelle cure de désintoxication, sait que le temps lui est compté. Elle veut l'utiliser à écrire. Elle se réfugie donc à Naufle-le-Château, où elle retrouve un jour, par hasard, des cahiers qu'elle avait rédigés pendant la guerre. Elle décide de les relire. Au fond, elle reprend le fil de sa vie et, de manière associative, fait remonter à la surface des fragments de son propre passé, comme si l'écriture devenait une manière de la rassurer, d'authentifier ce qu'elle a vécu, de la rassurer sur le fait que oui, elle est encore vivante puisqu'elle peut écrire. La douleur est un texte bouleversant, réécrit puis recomposé à partir de ses cahiers. Ce n'est pas de la littérature, mais un chantier de mémoire. Elle-même disait que c'était un des textes les plus importants de sa vie. Ce qu'elle raconte est universel. L'amour, la mort, la joie, la tentative de coïncider avec soi-même. Elle-même ne sait plus très bien qui elle est. Se construit-elle un personnage ou se prend-elle vraiment pour une prophétesse, une pitié, voire une sorcière?
Tout le village est à la recherche de l'assassin. Les habitants de l'Épange, sur Vologne, dans les Vosges, sont sur les traces de celui qui a assassiné le petit Grégory. Ce petit garçon de 4 ans et demi avait été jeté vivant dans la rivière, vivant les pieds et poings liés.
Mais pourquoi donc s'est-elle entêtée à aller sur le terrain pour tenter de comprendre qui a bien pu tuer le petit Grégory? Serge Julie, avec qui elle collabore depuis longtemps, lui a commandé un article. Duras se prend pour Duras, et Marguerite pour un génie qui peut tout dire. De cette histoire tragique qui a passionné la France entière et qui reste encore vivace dans nos mémoires aujourd'hui, elle fait un conte cruel, dont la méchante est la mère de l'enfant, et n'hésitera pas à écrire que Christine est responsable de la disparition de son propre fils. Sous le titre « Sublime, forcément sublime », elle joue les prophétesses de malheur et explique que Christine Villemain, qui depuis a été lavée de tout soupçon par la justice, avait été choisie par Dieu pour accomplir le forfait suprême. Duras, à l'époque, est très affaiblie physiquement et commence à avoir des moments de confusion. Mais ce n'est pas une raison pour justifier ce dévoiement de la vérité, ce jeu avec le feu, ce piège qu'elle s'est tendu à elle-même et qui va alimenter la fureur et la haine de ceux qui la détestent depuis longtemps. Et oui, Duras se prend pour un génie et se permet de dire n'importe quoi. Pourtant, Duras sait ce que sont les mots, ce que nommer veut dire. Elle, si soucieuse d'intégrité morale, verse dans les défauts qu'elle reproche à tant d'autres l'atteinte à la personne, la volonté de se placer au-dessus des lois. Elle s'expose aussi de nouveau avec la publication de « Yeux bleus, cheveux noirs », texte où elle casse l'image de la jeune fille ravissante en tenue de bal de l'amant, pour se décrire, 4 ans après la maladie de la mort, où elle avoue son impuissance à se faire aimer d'un homosexuel, en vieille hurleuse acariâtre, en lionne fatiguée, qui n'a pas honte de réclamer sa pitance à un homosexuel dégoûté. Dans cette invivable
qu'elle décrit si précisément, elle se rapproche de l'amour de Dieu et de la punition sacrificielle. D'ailleurs, elle ne s'appartient plus, ne se supporte plus, et lentement mais sûrement, va se déshabiter de sa propre personne. Elle continue cependant à écrire sur les thématiques du sexe et de la mort. La mort, de plus en plus, la petite comme la grande. On dit que les hommes, quand ils jouissent, éprouvent ce qu'on nomme une petite mort. Elle, c'est la grande qui l'intéresse. Elle la sent, elle la voit s'approcher. Alors, à quoi bon continuer ? Mais elle est une fille de paysanne. Alors elle la garde, coûte que coûte, cette pauvre vie qui lui reste un peu. Ses médecins l'hospitalisent et la mettent dans un coma profond. Personne ne pense qu'elle s'en sortira. Vient le moment où les médecins jugent qu'il faut débrancher. Son fils s'y oppose. Il a raison. Sans que les médecins n'y comprennent rien, la voilà repartie. Comme elle le dira elle-même après, avec cette drôle de voix causée par le tuyau qu'elle a désormais dans le larynx, quel bordel que la vie. Marguerite a sûrement encore beaucoup de choses à faire, et sachant que le temps lui est compté, recommence de manière boulimique à rédiger des pièces de théâtre et faire des traductions. Elle écrit « La pluie d'été »,« L'amant de la Chine du Nord »,« Variation » et non « Complément de l'amant ». Elle s'éloigne de plus en plus d'elle-même et vit dans un monde parallèle. Elle en a ras-le-bol de Duras et déteste le film qu'a fait Jean-Jacques Haneau de son prix Goncourt. Elle coupe les ponts, lit et relit l'Ancien Testament, vit recluse. Yann a fermé la porte. De temps à autre, elle recouvre sa lucidité et dicte à Yann quelques phrases.
Lundi 24 juillet, venez m'aimer, venez, viens dans ce papier blanc, avec moi, je te donne ma peau, viens, vite, dis-moi au revoir, c'est tout, je ne sais plus rien de toi, je m'en vais avec les algues, viens avec moi.
Marguerite vit dans son univers, avec des personnages qu'elle a inventés, mais qu'elle croit réels. Yann vit à ses côtés, comme un moine, toujours là pour satisfaire ses moindres désirs et pour retranscrire ce qu'elle veut dire. Car Marguerite ne peut plus écrire. Mais lors de certaines heures de la nuit, elle récupère ses esprits et dicte à Yann ses pensées, ses impressions, ses méditations.
Lundi 31 juillet. Quelle est ma vérité à moi ? Si tu la connais, dis-la-moi. Je suis perdue. Regarde-moi.
Quand je pense à ma vie, je pense que j'ai été quand même très absente. Sauf peut-être l'amour de mon enfant. On n'est personne dans la vie vécue. On est quelqu'un dans les livres. Et plus on est quelqu'un dans les livres, moins on est dans la vie vécue.
Elle sait qu'elle s'approche de la mort et cela ne lui fait pas très peur. Elle est déjà morte et s'est dépouillée d'une partie d'elle-même. Alors, il reste l'amour des mots et la mère, toujours la mère, à qui elle veut témoigner son amour. La mère, le grand amour de sa vie. Alors, elle murmure à l'oreille de Yann, « J'aime toujours ma mère, il n'y a rien à faire, je l'aime toujours. » Elle quitte le monde des vivants lucides. Les dernières phrases sont pour Yann. Yann, je suis encore là. Il faut que je parte. Je ne sais plus où me mettre. Je vous aime. Au revoir.
Le 1er août, l'après-midi. Je crois que c'est terminé. Que ma vie, c'est fini. Je ne suis plus rien. Je suis devenue complètement effrayante. Je ne tiens plus ensemble. Viens vite. Je n'ai plus de bouche, plus de visage.
Femmes d'exception, un podcast de Laure Adler, réalisé par Séverine Cassard, documenté par Emmanuel Fournier, au mixage Basile Bocquer et Cédric Diallo. Femmes d'exception est un podcast original de France Inter.